C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau CQFR. Shai, on avait 6 matchs au programme la nuit dernière. Qu'est-ce qui a retenu particulièrement ton attention ?
Bah, je me suis mis sur le match OKC Dallas en espérant voir peut-être un duel entre aspirant MVP entre Shai et Luka. On savait que Luka était incertain, il a malheureusement pas joué. Mais ouais, je retiens qu'OKC a poursuivi le chassé croisé avec alors tantôt Minnesota, tantôt Denver. Là, c'était Denver qui avait repris le contrôle, mais OKC a tremble pas sous la pression est relative, on n'est pas en playoff, mais sous les attentes de les voir finir en tête de la conférence Ouest. Et OKC a battu Dallas. C'est le match que j'ai retenu parce que Shai Gilgeous-Alexander a fait du Shai Gilgeous-Alexander avec encore un énième match à 30 points. Et voilà, je retiens cette victoire solide du Thunder malgré une bonne équipe de Dallas.
126-119 hein, pour le Thunder contre les Mavericks. 31 points, 9 rebonds, 5 passes, 2 interceptions pour Shai Gilgeous-Alexander. Il a tiré à 9 sur 16. C'est son 49e match à 30 points ou plus cette saison. C'est un record pour le Thunder. C'est mieux que Kevin Durant. Ou c'est en passe d'être un record. Je crois qu'il a déjà battu le record. Il me semble qu'il a battu le record. C'est ça, il a battu le record de Kevin Durant. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y a le retour de Jalen Williams. Ça change la donne, mine de rien. Il est revenu de sa petite blessure à la cheville, 27 points directement. Moi, il y avait je continue sur des stats. 36 points, 12 passes pour Kyrie Irving. Il y avait un truc que moi, je voulais suivre particulièrement sur ce match, c'était Daniel Gafford.
Oui,
il avait une série en cours de paniers consécutifs sans rater.
33, ouais.
Il s'est finalement arrêté à 33. Donc, il a le record officiel, mais on sait que ce n'est pas vraiment le record. Il y a un record officieux. Comme ça, contre le singulier.
Ouais. C'est ça, de Will Chamberlain.
De Will Chamberlain, c'était 35. Donc, il n'est vraiment pas passé loin. Daniel Gafford, il est passé à 2 paniers près. Il finit à 19 points, 15 rebonds et 8 sur 11.
Ouais, petit putback qui n'est pas rentré. Et du coup, ça s'arrête là. Mais bon, ça, je veux dire, ça ne change rien au fait que c'est une très bonne recrue et que son impact est très intéressant pour Dallas. Mais ouais, t'as raison d'en parler. C'était une des petites storylines de ce match. Et je voulais revenir sur Kyrie encore parce que je le dirais jamais assez parce que je sais que beaucoup dans les commentaires on disait vous aimez pas Kyrie machin. Il est absolument incroyable cette saison dans le jeu. Enfin peut-être pas incroyable parce que c'est son niveau quand il joue et qu'il enchaîne les matchs et qu'il y a pas de dinguerie extra sportive. Il a encore fait un super match en l'absence de Doncic. Je me souviens pas d'un mauvais match de Kyrie cette saison en fait. À chaque fois que j'ai regardé les Mavs, ouais, au moins une fois sur deux dès que le match me semblait en valoir la peine. Je l'ai toujours trouvé parfaitement en contrôle de sa technique, de son physique. Je le trouve parfait, en fait. Donc, je ne sais pas comment ça se traduira pour Dallas. Est-ce que tout se goupillera suffisamment bien pour qu'ils aient un beau run en playoff? Mais Kyrie est absolument impressionnant. Là. Tu le disais, 36 points et 12 passes cette nuit. Et c'est dans une défaite, certes. Mais c'était quand même un match d'assez haut niveau, je trouve, malgré l'absence de Luka, encore une fois. Les deux équipes ont shooté à 51 et 52%, donc c'était il y avait de l'adresse. Et ouais, Kyrie très bon, et Shai excellent aussi.
On peut enchaîner peut-être avec la victoire de Boston contre Phoenix. C'était un peu le choc de la soirée, du coup, entre deux grosses équipes, même s'il y avait aussi, enfin, il y en a eu plusieurs, il y avait aussi ce OKC Dallas, évidemment. Victoire de Boston contre Phoenix, 127 à 112. Alors, c'est une victoire qui qualifie officiellement, mathématiquement, les Celtics pour les playoffs. Je pense qu'il n'y avait pas trop de suspense, mais il reste quand même un mois de saison régulière et Boston est déjà qualifié. Boston a 9 victoires d'avance sur le deuxième à l'Est. Je ne sais pas si tu te rends compte, Shai, 9 victoires d'avance. Ouais. Pour te donner une petite comparaison, le Thunder qui est donc premier à l'Ouest avec cette victoire, qui est repassé premier comme tu l'as dit, il y a 10 victoires d'écart avec les Lakers 9e. Donc quasiment si tu veux, il y a 9 victoires d'écart entre il y a même moins de 9 victoires d'écart entre OKC et Dallas qui est 8e. Et là Boston 9 victoires d'avance donc sur le deuxième à l'Est. Boston qui a pu compter sur 37 points de Jalen Brown, il y a toujours pas Porzingis, mais il y avait Al Horford a mis 24 points en étant titulaire avec beaucoup de paniers à 3 points, 26 points de Jason Tatum. Et ouais, encore une victoire assez, enfin, pas impressionnante parce qu'on est habitué maintenant, mais encore une victoire des Celtics contre quel que soit l'adversaire. C'est vraiment une équipe super solide. 25 paniers à 3 points.
Peut-être finir c'est ça. 25 c'est leur meilleure perf de la saison à 3 points. Mais cavalier seul à l'Est. On était quand même globalement d'accord pour dire que Boston était favori à l'Est, ne serait-ce qu'en saison régulière cette année. Mais le fait qu'il soit aussi loin devant Milwaukee, aussi loin devant d'autres concurrents comme Philadelphie et autres, c'est ça qui est impressionnant. Et ils ont cette constance quand même dans la performance. Dès qu'il y a une petite une défaite un peu étonnante, derrière, tout de suite, ils corrigent le tir. Et malgré les absents, tu parlais de Porzingis qui fait partie de ces fameux joueurs inéligibles maintenant pour les trophées individuels ou les All-NBA Team. Malgré cette absence-là, bah, tu as raison, t'as un soir, tu vas avoir Al Horford, le Théo des Boston Celtics, qui va sortir une performance vintage. Jaylen Brown, 37 points. C'est, voilà, Boston, on le répète, hein, c'est, on a l'impression de se répéter, mais il ne faut pas sous-évaluer cette constance que je trouve toujours impressionnante de la part des Celtics. Après, il y a toujours un petit piège. C'est, tu te dis, bon, on est déjà qualifié, on est déjà premier. Comment est-ce que tu maintiens tout le monde suffisamment concerné pour ne pas arriver en play-off avec tout le monde qui est en vacances physiquement et dans les têtes? C'est une forme de challenge.
Alors, ils peuvent avoir un objectif. Je ne sais pas si c'est forcément un bon objectif à se fixer, mais ils peuvent encore finir avec le meilleur bilan de l'histoire des Celtics. Et quand on connaît la riche histoire des Celtics, c'est quand même quelque chose. Je ne sais pas s'ils le feront. J'ai l'impression que maintenant, à cette époque, il y aura quand même des repos, des mises au repos de certains joueurs lors de certains matchs. Je pense qu'ils iront au moins aux 65 victoires. Je ne suis pas sûr qu'ils iront forcément au-delà. On verra. Mais ça peut être une manière de se fixer un petit objectif et de rester un peu concerné. On peut passer à la grosse perf individuelle de la nuit, c'est celle de Jalen Brunson. Les Knicks ont battu les Blazers 105 à 93 avec 45 points de Jalen Brunson. Il a provoqué énormément de fautes. Il n'a pas arrêté d'attaquer la défense. Il finit donc avec 15 sur 17 au lancer franc notamment. Et les Knicks qui ont encore limité leur adversaire sous les 100 points. C'est le quatrième match de suite. New York qui repart bien. Ça y est, récupérer Brunson, ça a fait du bien. Le retour d'Anunobi surtout, et il manque maintenant plus que celui de Julius Randle, quoi.
C'est ça, New York qui s'accroche. Ils sont quand même toujours ils sont vraiment en bonne position pour avoir cette quatrième place qui, je le répète, est quand même importante. Avoir l'avantage du terrain, on a vu des équipes subir des upsets même avec l'avantage du terrain, mais je pense qu'ils en sont conscients, et c'est aussi pour ça que ça joue dur, quels que soient les absents et les présents d'un soir à l'autre. Bon, là, c'est que Portland, mais je trouve que Portland essaye un peu de jouer le coup un peu plus sérieusement sur cette fin de saison. Hier, je ne sais pas si tu as vu, mais Théo a pensé à toi et a donné les stats de DeAndre Ayton, qui est sur un très très bon enchaînement de matchs.
J'allais y venir, évidemment.
Ouais, il est sur un très très bon enchaînement de matchs. Les Blazers sont un peu moins désespérants, on va dire, qu'à un moment de la saison. Ils sont vraiment dans les matchs, ils en gagnent un par-ci, par-là. Et bon, là, ça n'a pas suffi pour battre les Knicks. Tu as dit Jalen Brunson a été excellent, mais
alors là on a le Ayton, on a le DeAndre Ayton qui est un premier choix de draft en fait. C'est, faut pas oublier que ce mec est un premier choix de draft. Je me demande si lui des fois l'a pas un peu oublié, pour être sincère. Quoique, quand il déclare je suis un joueur max, il l'oublie pas complètement, mais dans sa production là on voit le DeAndre Ayton qui peut être une vraie star aux côtés de Shedon Sharpe, aux côtés d'Anferni Simons. T'as un potentiel big three très intéressant. Big Three jeune, évidemment, ça ne veut pas dire que les trois deviendront des stars ou des superstars, mais il y a un vrai potentiel. Je n'ai même pas cité Scoot Anderson. Là, sur les derniers matchs, DeAndre Ayton, 30 points, 19 rebonds contre Toronto, et ça gagne. 22 points, 15 rebonds, bon, lors d'une large défaite contre Boston. 33 points, 19 rebonds contre Atlanta, et ça gagne. Et là, 31-14 contre New York. Bon, il y a une défaite à l'arrivée, mais il y a une défaite où il manque justement Shedon Sharpe, il manque Anferni Simons. Donc, il manque déjà le meilleur joueur de l'effectif, Simons. Il manque Shedon Sharpe, qui est un des joueurs les plus prometteurs, voire peut-être le plus prometteur de l'effectif. Il se passe. Je sais que cette saison de Portland, elle passe sous le radar, mais elle est quand même intéressante sur pas mal d'aspects. Et la franchise, je pense, je ne les vois pas rester longtemps dans l'ombre comme Détroit, par exemple.
La question, ça va surtout être, est-ce que Chauncey Billups est l'homme de la situation pour passer d'équipe qui tank à équipe qui progresse vraiment d'une saison à l'autre? Par exemple, Orlando l'a fait avec Jamal Mosley, on a vu une progression petit à petit jusqu'à cette saison où ils sont à la lutte pour les playoffs. Est-ce que Billups c'est ce gars-là? Je ne sais pas encore, je me demande. Mais tu as raison, il y a des choses intéressantes, on n'est pas dans le désespoir total. C'est juste que tout au début de la saison, on a pu se dire « Ah, il y a quand même DeAndre Ayton, il y a deux, trois mecs comme ça qui ont de l'expérience, c'est pas l'effectif le plus mauvais. » Et au final, les voir végéter comme ça, vraiment tout en bas, c'était pas sans cette impression de progression qu'on recherche tout le temps, de promesses qu'on recherche souvent chez ces équipes-là. Là, je commence à en voir, par contre. Je commence à voir des choses plutôt intéressantes, et t'as raison de le souligner. Et DeAndre Ayton, quand il a cette agressivité-là, celle qui lui a parfois fait défaut quand il jouait à Phoenix et qui lui a été reprochée, où il avait ses errements, ses sautes de concentration, là, sur cette séquence de match, on le voit sous sa meilleure version, je trouve.
Allez, on peut accélérer un peu sur les autres matchs. Il y a eu la victoire des Clippers contre les Bulls, victoire intéressante à l'extérieur. 126-111. Surtout, ce qui est rassurant, c'est Kawhi Leonard a joué.
Il a joué,
il était de retour. 27 points à 12 sur 17. Et il y a eu un excellent Paul George. 28 points, 7 passes, 11 sur 12 au tir, 6 sur 7 à 3 points. Paul George, que des bonnes décisions. Et victoire des Clippers sans James Harden. Victoire intéressante à l'extérieur.
Ouais, et rassurant de voir Kawhi, effectivement, après la scène un peu curieuse qu'on ne sait toujours pas s'expliquer. Est-ce qu'il y a eu un souci perso? Est-ce que c'était pour se faire soigner quelque part en particulier? Mais il a quand même quitté le dernier match en plein milieu de la rencontre en boitant un peu, en marchant lentement. Là, le voir direct dans le 5, le voir faire un bon match, c'est assez rassurant. On est quand même en mars, les playoffs approchent et ce serait bien de savoir si Kawhi sera à 100%. A priori, ce sera le cas. Et tu fais bien de souligner le très bon match de Paul George, toujours dans ce rôle de facilitateur qu'on aime bien. Et sans Harden, on a vu un bon Bones Island aussi. Bones Island ouais. Titulaire. 17 points, 11 passes, c'est ça?
Ouais, c'est ça. 17 points, 11 passes, 5 rebonds, 4 interceptions. Lui, il a un rôle. Alors, peut-être qu'il. Le problème pour lui, c'est que il peut passer du titulaire à un mec qui ne joue pas du tout. Mmh. Dans le sens où son profil fait que c'est. Tu as besoin d'un mec un peu hit-check, mais ils ont déjà Norman Powell dans ce rôle. Tu ne peux pas forcément en avoir toujours deux. Surtout que défensivement, c'est souvent des gars limités dans ce genre de profil.
Ouais.
Pas Powell, pour le coup. Mais du coup, ouais, Bones Island, peut-être qu'on le verra en playoff, ça peut être un potentiel facteur X sur un match, sur une série, selon le match-up, etc. Mais c'est bien.
Il est divertissant.
Sixième, onzième homme.
Il est divertissant. Ouais. C'est-à-dire que tu peux... Bon, si tu es fan de l'équipe dans laquelle il joue, une fois sur deux, tu peux te taper la tête contre le mur. Mais Denver, ils ont vu, hein. Mais là, quand il est comme ça, je l'aime bien. Je l'aime bien quand il est plus playmaker, quand c'est pas juste du dribble pour dribbler. J'aime bien ses performances. T'as raison, ça peut être dans une série un facteur X sur un match ou deux, tu vois, où tu t'y attends pas. C'est pas le mec qu'ils vont surveiller et il peut quand même faire mal. C'est un joueur qui est doué.
Yes, clairement, c'est un mec qui a du talent. C'est tête brûlée, mais mec qui a du talent. Mmh. Victoire de Milwaukee contre Philadelphie, 114-105. Voilà, les Bucks se reprennent. 32 points, 11 rebonds, 7 passes de Giannis Antetokounmpo qui a été très adroit, 9 sur 12. Il a quand même perdu 7 ballons. De toute façon, les Sixers, cette équipe des Sixers, alors Tyrese Maxey a mis 30 points, mais...
Ils sont bien battus, hein. Franchement, ils étaient en tête dans le quatrième carton, c'était pas mal.
Oui, c'est vrai, c'est dans le quatrième carton que ça fait les cartons.
C'est le quatrième qu'ils ont vraiment, que les Bucks ont commencé à se défaire des Sixers. Il a fallu une bonne séquence avec Bobby Portis notamment, et AJ Green qui est intéressant aussi,
oui.
Qui met 14 bon points, je crois.
Oui, 14 points, 5 rebonds, pardon.
Ouais. Mais impact intéressant.
Je veux dire, bon shooter, pardon.
Ouais, et il a fallu quand même que Milwaukee se bouge un peu pour dominer ces Sixers, toujours difficile à... Enfin, même Tyrese Maxey a beau être là et mettre 30 points, c'est compliqué pour Philadelphie. Il n'y aura pas de qualification directe pour les playoffs, il y aura du play-in.
Ils sont encore en course. Il y a un très peu d'écart avec Indiana. C'est un peu l'équipe qui va, qui va le mieux finir forcément. Bon, Indiana est a priori quand même en position, a plus d'arguments vu qu'ils sont, ils sont complets. Mais sur le, c'est entre Miami, Philly, Indiana, même Orlando qui est un petit peu devant. Il y a vraiment très peu d'écart. C'est cette conférence.
Je suis un peu trop catégorique, tu as raison. Mais c'est l'impression qu'ils ont beau faire ce qu'ils veulent, ce sera compliqué. Quoi.
Moi aussi, je suis assez d'accord avec toi. Si là, je devais faire un pronostic sur ce que montrent les Sixers sans Embiid, tu te dis, a priori, ils ont perdu 7 de leurs 10 derniers matchs. Ça classe une équipe.
Ouais.
Oui, évidemment, a priori, passera par le play-in. Et s'il n'y a pas Embiid, le play-in, ce n'est pas une garantie non plus. Si ça s'arrête aujourd'hui, ton premier match, c'est contre Miami. Et le deuxième, c'est contre le vainqueur de Chicago-Atlanta. Ces deux équipes, évidemment, les Sixers peuvent gagner sans Embiid
sur un
ce
match,
genre d'équipe. Mais sur un match, tu ne sais pas. Chicago avec DeRozan, c'est toujours quelque chose de spécial. Je trouve que Chicago a une meilleure équipe que ce que son bilan l'indique. Tu peux passer du rêve au cauchemar. Quoi, parce que début de saison, Embiid est super dominant. Tu es premier à l'Est un temps. Je crois qu'ils ont été premiers à l'Est un temps avant.
Ils ont très bien démarré. Maxi Embiid, ils étaient injouables. Ouais.
Ils n'étaient peut-être pas premiers à l'Est parce que Boston a tout du long caracolé, mais ou en tout cas au contact de Boston, et tu te retrouves avec pas d'Embiid et pas de playoff. C'est dur.
Ouais, on peut se souvenir que Nicolas Batum a joué 21 minutes en sortie de banc. 5 points, 3 passes de rebond.
Ouais.
Batum un peu discret. Alors bon, on regarde pas forcément les stats. On sait que c'est pas des stats ultra volumineuses avec Batum, mais un peu discret, un peu dans le, il est dans le moule, sans réussir à briller, mais bon, c'est un joueur qui a besoin d'avoir une équipe très compétitive. Là, à ce stade, on l'a vu avec les Clippers, il a besoin de que ce soit compétitif pour être lui-même précieux, je pense.
Oui, il lui faut. C'est un joueur qui est parfait aux côtés d'Embiid. C'est... dernier match de la nuit, c'est la victoire des Rockets contre les Wizards, 135-119, la meilleure perf de la saison de Jalen Green. 37 points pour Jalen Green. Pour, je peux signaler, pour Bilal Koulibaly, 10 points, 3 rebonds, 4 passes, 2 interceptions en 34 minutes. Il a encore manqué un peu d'adresse, mais quand même, voilà, il continue de noircir la feuille. C'est pas surprenant de voir Washington perdre. C'est bien pour les Rockets de voir Jalen Green briller. Puis voilà. Et puis 20 points, 11 rebonds aussi pour Amen Thompson.
Ouais. Ouais, Jalen Green toujours irrégulier, mais quand il est là, il est tranchant. Il a l'air assez irrésistible offensivement. Voilà, ce joueur qu'on a toujours du mal à cerner, mais là, sur la fin de saison, sans Shengun, a priori, ça peut être intéressant de le voir peut-être un peu plus mis en avant. On va voir ça.
Yes, bah écoute, on va s'arrêter là-dessus. Je crois qu'on a oublié aucun match. Non, pardon, on ne va pas s'arrêter là-dessus. On va d'abord parler quand même brièvement de Victor Wembanyama et de Rudy Gobert et du DPOY, parce qu'il y a des déclarations de Victor Wembanyama qui ont retenu notre attention. Shai, je vais te laisser nous les donner. On peut en parler un peu ensemble.
C'est Benjamin qui nous a envoyé ça parce qu'il était là. Les Spurs ont une série de matchs à Austin, si je dis pas de bêtises. Et Benjamin était à la conf de presse. Il a posé quelques questions à Victor notamment. Et sur la course au Defensive Player of the Year, où le nom de Victor plane un peu, même si ça paraît curieux vu le bilan des Spurs. Beaucoup en parlent parce que ses performances personnelles sont bonnes. Et donc il lui a été demandé s'il visait ce titre de meilleur défenseur de l'année. Et il a répondu, c'est quelque chose que je veux gagner dans le futur. Et en souriant, il a dit, je sais que Rudy a de très grosses chances de le gagner cette année et ce serait mérité, mais qu'il le gagne maintenant parce qu'après, c'est plus son tour. J'ai beaucoup aimé parce que, bon, il y a une petite note d'humour,
petite pique à un de ses mentors, presque.
Voilà, non, mais c'est gentil, tu vois. Puis j'aime bien le fait qu'ils disent que Rudy a de grandes chances de le gagner cette année. Et j'aime bien qu'ils disent, c'est vraiment un titre qui va me tenir à cœur. Et ça va avec ce qu'il disait pour le rookie de l'année, ça va avec ce qu'il disait avec le fait de vouloir être All-Star. Il veut tout et il le fait. Enfin, il manifeste ses ambitions avec une forme d'humilité, une petite pointe d'humour. Et en même temps, on sait ce qu'il veut, quoi. On sait que c'est un type qui veut rapidement gagner. Popovic, d'ailleurs, pendant le même événement, il a dit... alors qu'il parlait de Jokic, ils lui ont fait une comparaison avec Jokic sur le fait que Denver avait attendu la 7e saison, je crois, de Jokic pour gagner. Popovic a dit que, au milieu d'un torrent de compliments pour Victor et sa personnalité, que lui, ils n'attendraient pas 7 ans avant d'être des contenders. Donc tout ça est intéressant et ça commence à se mettre en place. Le discours est bien lissé et on peut s'attendre à des Spurs... un peu plus compétitif, je pense, au fur et à mesure des mois, et Victor qui va viser rapidement le DPOY, je pense.
Moi, je pense sur leur troisième saison de Victor Wembanyama, c'est là où ils vont commencer à vraiment vouloir monter en puissance. Troisième, quatrième, c'est là où ça va y avoir le boost. Et pour le DPOY, Wembanyama, c'est évident qu'il ira en chercher. Juste, en fait, il va tellement choquer au niveau statistique en termes de contre et d'interception. Ça sera dans la tête des votants. C'est pour ça que je pense qu'il a une chance de terminer dans le top 3 du vote, ce que je trouverais
c'est fou déjà.
Un peu particulier, mais que je comprends aussi parce qu'il a un impact défensif immense et indéniable. Et sur plein d'aspects, tu peux défendre un argument en disant bah, c'est celui qui a le plus d'impact défensif dans la ligue. Mmh. Et la nuance est un peu fine entre impact défensif et meilleur défenseur. Donc, j'arrive, moi, à faire une petite nuance. Et c'est pour ça que je trouve que Victor Wembanyama n'est pas le meilleur défenseur de la Ligue. Mais c'est évident que ça va lui revenir. Et en fait, bientôt, il le sera d'une certaine manière. Quand il va mieux comprendre le jeu, les systèmes, et tu gardes cet impact défensif, et en plus de ça, il va avoir la compréhension du jeu suffisante pour parfois ne même plus avoir besoin de faire un bloc ou une interception, justement. Juste, il ne va pas se faire battre, il se laissera moins piéger. Là, tu auras un défenseur générationnel assez impressionnant. Quoi.
Après, tout reste conditionné par le classement des Spurs, un minimum, tu vois. Déjà, t'imagines, il va peut-être finir sur... Je ne sais pas si ça s'est déjà vu dans l'histoire, il faudrait regarder, fouiller un peu, mais un mec qui joue pour l'équipe classée 15e à l'Ouest, qui finirait top 3 meilleur défenseur, ce serait hallucinant. Dans une ligue où il reste des très bons défenseurs encore, on est d'accord que c'est peut-être un tout petit peu moins de gros spécialistes qu'à une époque, mais... ce serait fou, je trouve, mais c'est à la fois c'est aussi un témoignage de sa super super saison malgré tout ça. Et alors Théo nous glisse en coulisses que c'est Jordan le dernier à être à avoir été DPOY enfin sur le podium, c'est ça, DPOY et MVP.
Ah oui, Ça peut être aussi un objectif pour Victor, un jour plus loin dans sa carrière, DPOY MVP. En tout cas, il est bien parti pour, ouais, pour finir avec deux, voire trois trophées individuels au cours de sa carrière.
Ah, ça me paraît évident. Ouais. Et Yanis Antetokounmpo aussi, il me semble.
Yanis Antetokounmpo, il a les deux trophées, mais il ne l'a pas fait la même année, non ?
Il n'a pas fait en même temps, ouais. On ne sait plus avec les... Les trophées, mais dans tous les cas, voilà, pour revenir sur Victor, c'est en fait, il n'y a rien, il a besoin de s'interdire absolument rien et il le fait très bien. C'est marrant quand même, il a un bon mélange d'humilité et d'ambition, tu vois. C'est la limite, elle peut parfois être fine et on reproche parfois aux athlètes américains, tu sais, on avait tiqué quand Jamorant a dit, moi je suis top 3 ou top 4 meneur.
Ouais, mais Jamorant, il n'y a pas l'aspect humilité quand même. Il avait raison d'avoir confiance en lui. Mais...
Bien sûr. C'est justement là. Il n'y avait peut-être pas l'aspect humilité. Après, tu peux dire c'est du réalisme et de l'ambition, mais ça pourrait être pareil. On pourrait dire, Victor, le gars, il dit qu'il veut être le meilleur joueur de tous les temps, qu'il veut être ça. Mais la manière dont il le dit, parce qu'il faut aussi voir la manière dont on s'est dit. Et là, tu vois dans le ton qu'il sourit quand il parle du fait que ce ne sera plus le tour de Rudy bientôt. Et en même temps, il est quand même très sérieux dans ce qu'il avance et tout ce qu'il a envie d'accomplir lui semble réaliste et lui semble faisable à court ou moyen terme, je pense. Hein. On en revient à l'importance de la saison 2. La saison 2, comment ça va s'enchaîner. Parce que les gens sont déjà frustrés, tu te rends compte. Il y a quand même des gens qui sont déjà très frustrés par la première saison collective des Spurs. Il ne faudrait pas non plus que ça traîne trop. Il faut qu'on voit une progression, ne serait-ce qu'au classement. Et ça permettra de légitimer plus, aux yeux de certains, je pense, d'éventuels podiums pour le DPOY, des sélections All-Star Game, tout ça. Je pense que c'est quand même conditionné par ça.
Yes. Olajuwon a aussi fait le MVP DPOY, nous dit Théo.
Ouais.
Je vous propose qu'on se laisse là-dessus, les amis, sur ces belles paroles sur Wembanyama, ce message d'optimisme et cet élan d'espoir pour le basket français. On va se retrouver évidemment demain pour le 6e CQFR de la semaine, celui où on répond à toutes vos questions, ou en tout cas presque toutes vos questions, parce qu'il y a beaucoup de questions. J'essaierai de faire mieux dans le quiz cette fois-ci. Et écoutez, passez tous une bonne journée et on se retrouve demain. Ciao, ciao.
Ciao, bonne journée.